fait plaisir qu'on se fasse une petite balade en forêt tous les deux. Ben, mais pourquoi que tu prends le poste avec toi ?
On va quand même pas louper l'agité du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Voilà, l'émission commence, c'est un direct, on arrive tous à ce moment précis de la journée, chargé de ce qui nous occupe ou nous préoccupe en ce moment. J'aime la curiosité de l'auditeur de l'autre radio, j'aime ces questions que l'on parcourt ensemble et aujourd'hui, j'avais cette interrogation autour des petits rituels qui s'installent presque sans que l'on s'en rende vraiment compte. Parfois compagnon de fête, parfois refuge dans la tempête, l'alcool devient pour certains une ombre tenace, un complice envahissant. Entre plaisir et relations plus complexes, on va parler d'une consommation qui n'est pas forcément exactement la même que l'on soit un homme ou une femme, que l'on soit jeune ou moins jeune. Justement, c'est un sujet qui a été abordé lors des rencontres cinéma et santé organisées par Atmosphère 53 et des professionnels de santé, une programmation qui s'étend jusqu'à demain et la projection du film Dernier Souffle au Vox à Mayenne en présence du réalisateur Costa Gavras. Mais aujourd'hui, avec mon invité, on parle de dépendance à l'alcool et on se questionne un peu plus sur la consommation du côté des femmes puisque c'est ce dont nous parlait le film The Outroom. C'est à l'issue de cette projection que Gilles Monsalier, président de l'association Alcool Assistance, intervenait pour un échange avec le public. C'est donc dans quelques instants. Ensuite, on continue l'émission avec le reportage Pensée locale de la semaine qui nous emmène sur l'île Dieu à la rencontre de l'édition islaise qui valorise l'île à travers les livres. C'est un reportage signé Neptune FM. Je vous fais ce sommaire d'émission en oubliant de te saluer, mais je ne peux pas t'oublier Maxime, puisque c'est un plaisir de partager cette émission avec toi, comme tous les jours. Bonjour à toi, et comment est-ce que tu vas ?
Bonjour, ça va super, et toi ?
Eh bah, très bien, justement. Ça va être un peu une première pour toi, puisqu'aujourd'hui tu vas te plonger dans ce monde de la justice avec notre chroniqueuse Priscilla. Avec elle, c'est une sorte de grand théâtre où l'on jongle entre le droit et le travers, où la vérité flirte avec le doute. Attention, âme prude, s'abstenir, puisque c'est la chroniqueuse la plus impertinente de cette émission. Et c'est un régal de la retrouver à notre micro, un jeudi sur deux. D'ailleurs, Priscilla est déjà avec nous en studio. Bonjour Priscilla, comment est-ce que vous allez ?
Bonjour Margot qui aujourd'hui me salue alors que d'habitude elle me salit, ça fait plaisir.
Voilà, on commence directement. Voilà, Maxime, tu vois, tu as une petite idée un petit peu de ce qui nous attend en fin d'émission. Et vous aussi, amis auditeurs, hein, vous l'avez compris, il faut rester avec nous jusqu'au bout. Je suis Margot et je vous propose eh bien, de commencer quand même maintenant avec l'entretien du jour.
L'agité du local sur l'autre radio.
Et donc aujourd'hui, je le disais, nous sommes en compagnie de Gilles Monsalier. Vous êtes le président de l'association Alcool Assistance en Mayenne. Vous étiez présent lors des deux projections qui ont lieu dans le cadre des rencontres cinéma et santé sur le film The Outroom, réalisé par Nora Finchait. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de l'association Alcool Assistance et de ses missions dans notre département ?
Oui, alors bonjour. Oui, donc Alcool Assistance, alors historiquement, puisque était connu par la Croix d'Or, donc ça veut dire que l'association aujourd'hui a plus de 65 ans sur le département et est présente sur 14 points du département. C'est une association qui vient en aide aux personnes en rencontrant une difficulté avec un produit, bon, l'alcool ou autre produit, ou un comportement addictif, puisque depuis les années 90, voire 2000, on travaille autour de l'ensemble des addictions, ce qui n'était pas le cas à la naissance de l'association, où la préoccupation était avant tout l'alcool. Alors, en aide aux personnes en difficulté avec un produit ou un comportement, parce qu'il y a des changements de comportement, parfois d'isolement, d'agressivité ou autre, c'est pouvoir mettre des mots. Alors, il y a bien sûr ces personnes qui sont en grande souffrance, et il y a un autre public qui est en grande souffrance, qu'on parle peu, c'est l'entourage, qui est dans ce mal de voir l'autre, l'autre se détruire, ne pas pouvoir communiquer. Et ce qu'il faut avant tout noter, c'est que l'addiction, quelle qu'elle soit, le jeu ou autre, c'est avant tout un problème de communication. À un moment donné, il n'y a plus de communication possible parce que chacun va avec ses petits secrets. On a tous nos petits secrets, nos petites histoires, ce qu'on s'autorise au nom du plaisir. Et il y a un véritable plaisir, mais je pense qu'on ne se questionne pas suffisamment sur le plaisir. Puisque quand on se questionne sur le plaisir, on s'aperçoit qu'il y a des notions de partage qui vont arriver, d'échange, de joie, de bonne humeur et autres. Et d'ailleurs, si on est honnête avec nous-mêmes, les meilleurs moments que nous passons sont souvent ceux qui n'étaient pas prévus. Les meilleures soirées sont celles qui n'étaient pas prévues. Donc c'est tout ça qu'il faut remettre en équilibre pour éviter, alors facile à dire hein, au micro, mais pour éviter d'aller dans l'excès. Et je pense, pour avoir été moi-même touché de cette difficulté à l'alcool et avoir posé mon verre à 27 ans, je dis aujourd'hui, depuis longtemps, je dis qu'avant d'être malade d'un produit ou d'un comportement, nous sommes des malades de l'excès. Et qu'est-ce qui n'est pas source d'excitation aujourd'hui dans cette société ?
Oui, c'est vrai. On est dans une époque aussi où on veut des sensations fortes, où on veut toujours plus. Et l'excès, en fait, fait effectivement partie. C'est une vraie...
Et c'est du tout, tout de suite.
Tout de suite, effectivement. Quelles sont vos missions de l'association, du coup ? Comment est-ce que vous intervenez auprès des publics sur notre département ?
Alors, on intervient de diverses façons. Déjà, on est présent aussi sur de la prévention, mais j'en dirai peut-être deux mots tout à l'heure. On intervient suite à un appel téléphonique de la personne, alors parfois de l'entourage, et on rencontre les personnes, mais s'il y a une rencontre avec une personne, c'est qu'il y a l'accord de la personne. Hein, on ne va pas frapper aux portes, forcer, tout ça. Et d'avoir cette première rencontre, c'est souvent une rencontre individuelle, parfois accompagnée de l'entourage, ça c'est la personne qui choisit. Et ensuite, bien sûr, on décrit et on parle de tous les partenaires qui existent sur le département. Parce que Alcool Assistance n'est pas plus fort qu'un autre partenaire. Nous sommes une porte. J'aime souvent prendre cette image d'un couloir, un couloir avec plusieurs portes. Et on va peut-être en pousser une et ça va être la bonne. On va peut-être en pousser 10 et ça va être la 10e la bonne. Parce que c'est une histoire de rencontre. À un moment donné, si on est rentré dans l'addiction, c'est qu'il y a une rencontre aussi avec cette addiction. Donc pour sortir de celle-ci, il faut une autre rencontre. Une rencontre qui va se cheminer. Souvent les personnes, et moi-même par le passé, je l'ai fait, je vais dire, bah oui, j'ai eu le déclic ce jour-là. Je pense que ce n'est pas un déclic, mais plusieurs petits déclics qui font qu'à un moment donné, il y a une force qui nous envahit et qui nous permet d'aller un peu plus loin dans nos réflexions. Puisque c'est la réflexion qui va commencer à nous booster et autres. Bien sûr, on a conscience de la souffrance qu'on apporte aux autres. Mais on a déjà des difficultés à parler de notre propre souffrance. Donc, parfois, on dit, de toute façon, oui, je vais tout arrêter pour ma femme, pour mes enfants, pour mon mari. Hein, tout ça dépend qui est dans la difficulté. Et faire pour l'autre, c'est bien. Mais quand j'ai une embrouille avec l'autre, je repars dans mes colères et je repars dans mes justificatifs. Et puis, de toute façon, vous ne vous rendez pas compte de tous les efforts que je peux faire et tout ça. Donc, cette démarche, elle est personnelle. C'est pour soi qu'il faut la faire. Facile à dire, hein, attention. Hein. C'est pour soi qu'il faut la faire pour pouvoir être bien avec soi-même. Parce que quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Ça veut dire que quand on est bien avec soi-même, on a retrouvé un temps de patience. Et on va savoir juger cette notion du temps. Hein, pour ralentir, comprendre aussi la colère des autres et dire on reprendra ça demain. C'est toujours ça. Je pense que aujourd'hui où nous sommes dans une société à filtres avec tous les écrans, ça serait un autre débat, ces filtres-là amènent de l'éloignement. Donc il va falloir qu'on réapprenne demain, je pense, à se rapprocher les uns des autres, simplement par la communication, simplement par la parole, parce que la parole soigne.
Ce qui est très intéressant, c'est que dans le film qui a été projeté donc, dans le cadre des rencontres cinéma et santé, le film donc, porte le titre de The Outroom, je ne suis pas sûre de bien le prononcer, mais on va faire comme ça. On parle de dépendance à l'alcool, mais du côté des femmes. Est-ce qu'il y a des différences dans la consommation d'alcool, dans la dépendance à l'alcool entre les hommes et les femmes ?
Alors, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus de différence. Avant, on mettait des différences. On disait que l'homme qui consommait trop d'alcool, ça l'entraînait vers une dépression. Et que la femme, c'était la dépression qui l'amenait à l'alcool. Ça, c'était une des différences qu'on mettait en avant. Déjà, on avait peu d'appels de femmes, qui aujourd'hui est l'inverse. Il y a un équilibre, je veux dire, dans ces appels. Peu d'appels de femmes parce que, je parle là d'il y a 39 ans.
Oui.
39 ans, 40 ans, il y avait malheureusement cette femme qui faisait la vaisselle, qui devait tout faire et qu'on ne comprenait pas qu'elle soit fatiguée après sa journée, parce qu'en plus il y avait la journée de travail. Et j'ai souvenir des appels téléphoniques de femmes qui étaient en grande difficulté. Ces appels intervenaient toujours vers 22h30 voire 23h, quand la famille était couchée. C'est-à-dire à ce moment-là, elle s'autorisait de parler. Aujourd'hui, la parole est plus libre, et tant mieux, et heureusement. Il y a eu un changement, alors pour moi, mais bien sûr, ce n'est que mon regard. Il y a eu un changement et une autorisation à l'alcoolisation féminine quand Sam est apparu. ça paraît, alors que Sam, ça a bouleversé. Et ça bouleverse, on se rendra compte plus tard que ça bouleverse nos cultures. Et quand Sam est arrivé, on s'est dit, on va tourner. Parce qu'on ne voulait pas être toujours celui qui... Voilà. Et on va tourner. Il y a eu comme ça une certaine forme d'autorisation. Parce que les filles ont dit, nous aussi, on veut tourner. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'elles osaient dire, nous aussi, on a le droit d'être dans la fête. Et la fête, elle connaît ses excès, quels que soient les produits. Parfois, sans être jeune, on connaît aussi les excès aux médicaments parce qu'on est persuadé que ça va nous... Voilà. Donc, c'est toujours une question de gestion et une question là, de plaisir. Alors, avec les médicaments, pas de plaisir, mais une question de plaisir. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on est jeune, on le voit sur les soirées étudiantes. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler non plus, mais on le voit sur les soirées étudiantes. Qu'est-ce qu'on fait? On va être l'égal de l'autre. Alors qu'il y a déjà plein de choses qui nous amènent à être inégaux plutôt. Déjà le sexe par rapport aux unités d'alcool, le sexe, le poids, tout ça. Et ensuite l'élimination. Donc ça fait trois éléments qui sont des éléments différents pour les uns et les autres. Et puis dans cette alcoolisation féminine, je ne vais pas dire que les médias... avec une certaine forme de manipulation. Mais si on est honnête et qu'on regarde en France depuis quelques années, ces téléfilms qui sont magnifiques, ces téléfilms où la femme est commandant de police, gendarmerie et autres, et c'est très bien qu'elle occupe ce poste-là, d'un seul coup, on a une image où elle a fini sa journée, elle rentre, elle épluche les carottes et vous voyez la caméra qui va vers un beau verre de vin. C'est pas un verre banal, c'est pas... Déjà, je ne suis pas sûr que beaucoup de femmes épluchent leurs carottes en buvant un beau verre de vin. Mais voilà, on amène ces images-là. Ce qui est regrettable, voilà, c'est qu'on va dans cet excès. Et souvent, l'excès, au départ, est revalorisé. Les premières cuites, elles sont banalisées.
C'est vrai.
Alors, je ne suis pas du tout contre l'alcool. Je le dis toujours. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien faire penser que nos associations, puisqu'il y a d'autres associations, je les citerai tout à l'heure en Mayenne, nous ne sommes pas des personnes intolérantes. Moi, personnellement, 39 ans que je n'ai pas touché une goutte, 39 ans que je vais dans les bistrots parce que j'adore les bistrots, et 39 ans que j'ai de l'alcool chez moi pour mes amis. Donc, ça s'apprend, tout ça. Mais parce que ce n'est pas parce que j'ai pris la décision d'arrêter que la grande distribution a vidé, a caché ses bouteilles. Et, voilà, donc, il faut vivre avec. Et par contre, aujourd'hui, comme on le disait, on est dans une société tellement excessive et haute. Il faut aussi que nous, les hommes, on se remette un peu en question pour modérer ces dames. C'est-à-dire rien que le mercredi, je ne voudrais pas être une femme. Il faut emmener les enfants à l'école, il faut prendre ceci, il faut faire cela et tout ça. Donc à nous aussi de répartir les choses.
Et de s'observer mutuellement, effectivement, peu importe le genre, peu importe. Et puis être attentif toujours à être sûr que ceux qui nous entourent, qui nous accompagnent soient bien et ne tombent pas forcément dans ces excès. Est-ce qu'il y a des facteurs même différents aujourd'hui qui amènent à la dépendance à l'alcool entre les hommes et les femmes et entre les générations, j'ai envie de dire, dans les différences d'âge aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses marquées entre les jeunes, les moins jeunes, les...
Oui, alors ce que je vais dire ne va pas plaire à vos auditeurs de 40-60 ans, puisque je dis depuis plusieurs années, il est plus simple de faire de la prévention auprès de nos jeunes qu'on critique tant dans certains médias ou en mettant à l'affiche et autres, que ce soit en préfecture ou ailleurs. Je dis sans cesse, moi et l'équipe, parce qu'on est toute une équipe sur la prévention, nous avons une belle jeunesse. Ça, il faut qu'ils l'entendent, il faut qu'ils le sachent. Nous avons une belle jeunesse en France. Aujourd'hui, une jeunesse qui a grandi, alors je reviens à Sam, qui a grandi avec Sam, puisque Sam a 23 ans ou 24 ans. Donc Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et ces jeunes ont grandi avec ça. Parce que ça a été vraiment un bouleversement culturel. Le jour où nous sommes passés à 0,50, puisque j'ai connu les années folles où on pouvait conduire avec 1,20 g. ces années folles où voilà, il y avait pas, on pouvait aussi avoir des relations sexuelles sans préservatif, enfin voilà, tout ça. Aujourd'hui, il y a quand même des règles qui sont contraignantes pour si on veut dire à un moment donné s'échapper et tout ça. Et quand c'est arrivé à 0,50, je me rappelle, et moi-même, je faisais partie à dire il n'y a plus de liberté dans ce pays. Enfin voilà, il y avait comme une frustration culturelle. Et plus de liberté et autres. Et l'adulte, les adultes que nous étions, on s'est mis à dire, bah oui, mais alors, on va faire la fête quand même, mais on va dormir sur place. Si bien que les générations qui sont venues après ont grandi en voyant des parents dormir sur place, faisant autrement quand ils faisaient la fête. Ça, c'est ce que j'appelle les... Parce qu'ils sont réels aussi dans l'addiction, ces fameux chemins de reproduction. Avant, on reproduisait peut-être l'alcoolisation parce que c'était banalisé la bouteille de vin sur la table, c'était banalisé le fait de la consommation journalière. Aujourd'hui, chez les jeunes, alors bien sûr, il y a quelques jeunes qui sont dans des consommations journalières, mais elle n'est pas présente, cette consommation journalière. Elle est plutôt une consommation... Alors, ils vont se cacher sur le côté du festif, comme nous, on se cachait sur le côté de la convivialité. Voilà, vous voyez, on joue toujours à cache-cache. Mais ce festif, ça va être le jeudi soir pour certains, ça va être un samedi soir. Mais cette ivresse est rarement, alors parfois oui, hein, mais elle est rarement répétée. Elle est pas, voilà. Et il n'y a pas forcément d'alcool dans la semaine. Y a pas, voilà, ça, c'est quand même quelque chose qui a modifié nos comportements. Et puis... moi, quand j'ai souhaité, alors, quand on souhaitait arrêter de consommer ou quand on arrêtait de boire dans notre société, on était des gens qui savaient, parce qu'on ne savait pas boire. Oui. C'est tout. Et s'affirmer, alors aujourd'hui, c'est toujours difficile de s'affirmer. Mais chez nos jeunes, alors chez les 40-60, non. Mais chez nos jeunes, s'affirmer, c'est plus facile parce qu'ils sont respectés dans leurs choix. Alors qu'auparavant, nous n'étions pas respectés dans nos choix. Et encore aujourd'hui, sur le public, et j'ai rien contre eux, puisque j'ai un peu plus de 60, j'ai 65. Mais voilà, parce que, bah, parce que on est d'une autre culture, parce qu'on trouve ça tout à fait normal. Quelqu'un qui est dans un excès, qui, c'est pas au moment où les choses vont mal qu'il faut en parler. C'est le lendemain ou deux jours après, quand les choses sont posées. On a le droit de dire à l'autre, ton comportement m'a déplu. Mais c'est toi que j'aime. Mais ton comportement, je ne le connaissais pas comme ça, ton comportement m'a déplu.
On a dit quelques mots sur la prévention, je trouve intéressant d'y revenir avant de terminer. Est-ce que la prévention aujourd'hui est suffisante sur ces questions de dépendance à l'alcool ?
Alors, avant, j'aimerais dire que le film, c'est un film génial et que vraiment, ceux qui veulent aller, il faut aller chercher ce film-là pour le voir. Alors, la prévention, nous, sur le terrain de la prévention, depuis 15 ans, c'est toujours Alcool Assistance, mais on ne s'affiche pas au nom d'Alcool Assistance sur la prévention, c'est Couleur Prévention. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu, parce qu'il faut du temps pour réfléchir, vous savez, je me suis aperçu qu'en enlevant le mot alcool, on enlevait la relation conflictuelle. Et on enlevait ces remarques à deux balles, un whisky sans glace pour moi et tout ça. Et on a appris. On a appris en 15 ans. On a appris sur ce champ de la prévention, on a appris avec les festivaliers, on a appris avec les étudiants, on a appris, voilà. Et c'est un échange. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas suffisamment de prévention. Hein. On travaille avec des organismes comme Addiction France, Aide avec le CARUD et bien d'autres associations où ils ont des professionnels et il n'y a pas forcément la possibilité d'aller sur le terrain. Donc on travaille ensemble pour on a un collectif qui s'appelle Caméléon pour pouvoir pallier comme ça plusieurs choses. Mais pour vous donner un ordre d'idée sur 2024, je crois qu'on a 52 semaines. Sur une année, nous avons mené 57 opérations de prévention, donc à un peu plus d'une par semaine, en sachant que sur un festival, on y est trois jours.
Oui, donc oui.
Mais on n'est pas que sur le champ du festival. Là, prochainement, il y aura le Salon de la BD en février. Enfin, voilà. Même si on peut être sur des lieux où on ne nous attend pas, c'est important. Parce que la parole circule. Hier, on était sur une après-midi intergénérationnelle avec la ville de Laval. Et ben, c'est pareil, il y a des moments où on fait des cocktails de jus de fruits et pas des cocktails sans alcool. Pourquoi mettre le mot alcool quand il n'a pas lieu de l'être ? Donc, et cette parole, voilà, elle circule. Plus la parole circule, nous sommes présents et aussi les personnes qui nous accompagnent, on est connus, reconnus et voilà. Et la parole circule et il se dit des choses. Alors c'est vrai qu'avant de finir, j'aimerais remercier l'ensemble des bénévoles parce que c'est un temps énorme qui est donné et l'ensemble des bénévoles de notre association et de toutes les associations qui font un travail énorme dans toute forme de prévention. Laissons circuler cette parole. Et je le redis, nous avons une belle jeunesse.
Une dernière chose peut-être qui est importante. Imaginons qu'un auditeur là nous écoute, Gilles, et sente qu'il a une difficulté justement avec l'alcool ou une autre consommation, qu'il a encore du mal peut-être à passer le pas de frapper à une porte de ce couloir justement. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ?
Alors, c'est toujours oser. Hein, on est dans une société qui ose de moins en moins faire des choses, qui ose de moins en moins la curiosité. Manquer de curiosité, c'est le début de l'isolement. Donc, cette curiosité osée, en ce qui concerne notre association, c'est Olivier Coulange qui est coordinateur de l'association et qui répond au téléphone, où il faut laisser un message s'il est en entretien et autres, au 06 81 80 33 51. C'est dit au passage. Voilà, il y a Olivier qui, lui, va faire de l'écoute. Et puis ensuite, on est dans de l'orientation. Le soin est, pour certaines personnes, des espaces de parole. Alors, je dis bien des espaces de parole, parce que dans le film, il est question d'une association. Je vais citer celles qui sont en Mayenne. Il y a bien sûr celle qui, dans le film, qui est alcoolique anonyme. Mais je dis toujours, attention, et on travaille ensemble, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Alcoolique Anonyme travaille d'une certaine façon et les autres associations d'une autre façon. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans une image. En Mayenne, on a les Amis de la Santé. Alors, une nouvelle association, enfin qui est une ancienne, mais qui vient de changer de nom, qui est Amitié, Sobriété, et il y a un autre mot, je ne sais plus, 53.
Aide, amitié, sobriété, voilà, 53.
Aide. J'oublie toujours le aide. Rémi m'en excusera, c'est pas un problème. Et autrement, on a aussi dans notre collectif Anorexie, Boulimie. Mais voilà, et puis il y a le XAPA qui fait de l'ambulatoire. On a un centre de soins qui est sur Attillé, la Bréonnière. Enfin, en Mayenne, voilà, on travaille, il y a ce qu'on appelle le RIAM, le réseau d'intervenants en addictologie de la Mayenne. On travaille vraiment en partenariat. Et je dis bien, il ne faut pas hésiter à pousser des portes. Si la première ne convient pas, mais on peut accompagner vers même une autre association. Voilà. Le principal, c'est de se sentir bien. Je dis toujours, la marque du camembert, on s'en fout. C'est le résultat qui compte, ça c'est important.
En tout cas, merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours très intéressant de vous recevoir dans cette émission. On aimerait que ça dure encore, puisqu'on a encore des tas de questions, mais on vous recevra de nouveau avec plaisir. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous.
Merci.
L'agité du local, ça continue dans quelques instants. Mais avant ça, on écoute un morceau. Qu'est-ce qu'on écoute, Maxime ?
Nous allons écouter une musique de la série Arcane. Ma meilleure ennemie avec Stromae et Pomme.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi, le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore, quand il se cache, juste à l'air dans l'air.
Vous écoutez l'Agité du local et c'est sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Nouvel éditeur indépendant installé sur l'Île-Dieu en 2024, édition Islaise valorise et fait connaître ce territoire insulaire et les nombreuses plumes qui l'habitent. Édition Islaise a vocation à publier des ouvrages sur le patrimoine, des histoires de l'île, des contes, des dessins, des ouvrages jeunesse ou encore des livres de cuisine. Deux livres ont été publiés en 2024 dans Le silence de l'Île-Dieu, carnet de dessins et poèmes, et Les évadés de l'île d'Oya, fiction inspirée de l'histoire. C'est notre reportage Pensée locale de la semaine. Il est signé Laurent de Neptune FM, qui est allé à la rencontre de Benoît Gadori, fondateur de Édition Islaise.
Pensée locale. Spécial forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire.
Éditeur indépendant installé sur l'Île-Dieu, édition Ilaise, pour vocation de valoriser au mieux et de faire connaître ce territoire insulaire et les nombreuses plumes qui y habitent, Benoît Gabory, le fondateur.
Le livre, c'est un objet très intéressant qui est destiné à rester, à durer. Ça nous relie à notre histoire et ça nous relie à notre territoire, l'Île-Dieu. Aujourd'hui, sur l'Île-Dieu, on a des auteurs qui publient eux-mêmes leurs livres, mais c'est une solution qui n'est pas très pérenne. On a quelques éditeurs de France, du continent, je devrais dire, et il n'y avait pas d'autres éditeurs actifs. Donc on s'est dit, voilà, on va créer Édition Ilaise pour pouvoir créer des livres sur l'Île-Dieu. Des gens qui soit sont ilais de naissance, soit habitent sur l'île, soit viennent en vacances sur l'île, et qui essayent de raconter l'île telle qu'elle leur plaît. Alors ça peut être au niveau du patrimoine de l'île, des histoires issues de l'île, des dessins sur l'île, et la cuisine ilaise, pourquoi pas. Tout ce qui fait que être ilais, c'est pas la même chose que d'être de Chaland, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou de La Roche-sur-Yon. On est un peu différent. Alors pour l'instant, nous avons deux livres. Un dans la collection Plumes et Pinceaux, qui est un recueil d'aquarelles et de jolis poèmes. Un autre qui vient de sortir dans la collection Romans et Nouvelles. Nous avons prévu d'autres collections. Une collection Ado et Pitchoun pour la jeunesse. Une collection Histoire et Patrimoine. Une collection Passion et Partage sur des choses qui nous relient. Je parlais tout à l'heure de cuisine. Ça pourrait être un livre de recettes de cuisine. Et enfin, une collection Bulles et Dessins, où j'aimerais bien avoir des bandes dessinées. Les auteurs nous contactent en nous proposant leurs manuscrits ou leurs idées. Et derrière, on a créé un comité éditorial. Ce sont 6 personnes qui sont anonymes. Leur nom est secret parce que l'île est toute petite. Et je ne voudrais pas que des gens soient fâchés si on doit leur refuser le livre, qui disent « Ah oui, mais tu aurais dû accepter ». Donc, ils sont anonymes. Donc, c'est 6 personnes à qui on envoie les manuscrits, qui relisent et qui nous disent « C'est bien, il faut publier », qui nous disent « Non, il n'y a rien à en faire ». Ou qui nous disent qu'il faudrait publier, mais ça aurait peut-être la peine d'agrandir un peu ce chapitre, de réduire tel autre, enfin d'améliorer. Suite aux remarques de ce comité éditorial, on les aide à revoir leur texte, à l'améliorer. Et surtout, on fait derrière toute la partie logistique, consiste à faire la maquette du livre, le faire imprimer.
Deux livres ont été édités en 2024.
Dans le silence de l'Île-Dieu, une balade autour de l'Île-Dieu, autour d'aquarelles très jolies faites par Florence d'Abeauville. En demi-saison, donc on trouve l'Île-Dieu qui est un peu moins écrasé de soleil qu'en été, c'est assez original. Et de superbes petits poèmes au format AIQ, fait par Monique Malissard. Le second livre, Les évadés de l'île d'Oya, donc l'histoire de jeunes femmes sur l'Île-Dieu au moment de la guerre de Cent Ans, qui sont un peu oppressées par les hommes, pas mal oppressées par un clergé qui, à l'époque, avait des pratiques un peu douteuses, qui essaye de s'évader de l'Île-Dieu. Il ne faut pas que je vous en dise plus parce que je vais... Il faut que vous le lisiez.
Ces ouvrages sont disponibles sur l'Île-Dieu et sur le continent.
En dehors de l'île, on le trouve à Nantes, à la librairie Coiffard, et on le trouve à Chaland, à l'Espace des Prés. On peut également les acheter en ligne sur notre site internet.
Différents projets à venir durant l'année 2025 et 2026.
Alors, on va commencer par 2025. On a le projet de faire 4 nouveaux livres. Un premier, on vient de signer le contrat, ce sera un recueil de 12 contes sur l'Île-Dieu, rédigé par une jeune femme qui a une très belle plume. Le second projet, qui n'est pas encore signé, on est en train de finir de négocier, mais ça avance bien, ce sera en collaboration avec le service patrimoine de la mairie, où on s'appuierait sur leur belle exposition qu'ils ont fait avec Pascal Cariou sur les usines à l'Île-Dieu, pour essayer de transformer ça dans un livre, parce que je pense que ça a du sens de conserver cette histoire de l'île. 2 autres projets pour l'instant dans les cartons. J'ai un court roman qui se passe au moment de la Deuxième Guerre mondiale, avec des pêcheurs. Et également une jeune fille de l'Île-Dieu qui a beaucoup de talent, qui dessine très bien. Et j'ai le projet de faire une bande dessinée sous la forme de comic strip, donc des petites bandes dessinées de 3-4 pages. La bande dessinée, c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps pour le faire, donc ce sera peut-être plutôt pour 2026.
Édition Ilaise est aussi engagée dans une démarche visant à planter des arbres sur l'île-Dieu.
On a décidé que chaque fois qu'on vendait 50 kilos de papier, donc 50 kilos de livres, on planterait un arbre. Le Silence de l'île-Dieu, notre premier livre, on en a vendu pour 98,5 kilos. Donc j'ai prévu de planter 2 arbres.
Toutes les informations des éditions Ilaise sont en ligne sur edition.ilaise.fr. Laurent, Radio Neptune FM, l'île-Dieu.
C'était Pensée locale, un enjeu de société.
Une émission réalisée dans le cadre du forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire, le 7 mars 2025, dans les Halles 1 et 2, sur l'île de Nantes.
Je vous le disais, nous voilà arrivés au moment piquant de notre chronique juridique. Priscilla, c'est votre moment, on vous écoute.
Bonjour Marc Gollum, bonjour chers auditeurices. Mes petits déprimés hivernaux, vous êtes en manque de lumière ? Ben me voilà, votre rayon de soleil, votre lueur au bout du tunnel à chat. Aujourd'hui, je vous parle de la liberté d'association. Cela va parler à tous ceux qui ne veulent pas s'engager, les bébés à barbe et autres adeptes de la friend zone.
Oui, je connais bien ça.
Et je sais Margot, on en parlera après. L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit ce qu'est l'association. L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. En somme, l'association, c'est pas pour les michetots ou les hommes princesses.
Alors c'est quoi un homme princesse ?
Ah Margot, chères auditeurices, un homme princesse, ce n'est pas l'humoriste Jarry avec une robe de bal, mais c'est un homme qui aime se faire entretenir. Et pas avec du pec citron, si tu vois ce que je veux dire. Revenons-en à nos moutons chiche kebab. La liberté d'association consiste en la possibilité de former ou de rejoindre un groupe pour une durée prolongée. Donc genre les Beatles, c'était une association en somme, alors que bande organisée, non, malgré son nom. Question de durée. Quoi ? On me souffle dans l'oreillette qu'il y a un bande organisée 2 qui est sorti ? Purée, mais c'est pas possible, c'est le genre de nouvelles qui relance le débat sur la peine de mort, ça ! J'en reviens à la liberté d'association. Même si toute association n'est pas bonne à prendre. Associer du bleu marine et du marron, c'est esthétiquement moche. Enfin, c'est ce que pense Jordan Bardella. Mais il paraît qu'il est daltonien. Allez, encore un tacle pour les xénophobes, j'adore les détester. Donc la liberté d'association, on y revient, c'est le droit de constituer, d'adhérer et de refuser d'adhérer à une association. En la matière aussi, le consentement est important. C'est donc la loi du 1er juillet 1901 qui introduit, j'adore ce mot, et réglemente la liberté d'association. Cette liberté est donc aussi vieille que le dernier des tartrages de Joe Star.
Ah, vous n'oseriez pas dire ça s'il était là. Hein.
Non, en effet, dans la mesure où j'ai le courage d'un homme face à la paternité, je n'oserais pas. La loi de 1901 met fin au régime restrictif et d'interdiction préventive de la loi Le Chapelier de 1791 qui interdisait les groupements d'artisans et les groupes de pression. En effet, il préférait se retrouver autour d'une bonne tasse de thé, le chapelier fou. Ling, ling, clin d'œil. La loi sur la liberté d'association est fondée sur les principes issus de la révolution de 1789. Perso, moi je préfère la révolution de 1664. Ouh, ça tourne. Bref, ces principes sont notamment la liberté d'entrer ou de sortir d'une association. Non, Margot, rien de salace dans cette phrase, petite gourgandine.
Ah, oui.
La limitation de l'objet de l'association doit être définie. Alors, ça peut être aussi bien la collection des cachanus pour animaux ou la promotion du sandwich banane mayonnaise. Hein. Eh oui, ça valait vraiment la peine de se battre pour ces principes fondamentaux, vous en conviendrez. Le principe sur lesquels sont fondées la liberté d'association sont aussi l'égalité des membres d'une association. En gros, toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Tiens, ce serait une super comme objet social pour un club libertin, non ?
C'est ce qui est écrit sur la porte de mon appartement, Priscilla. Ouais.
Belle devise, n'est-ce pas ? Eh bien, du coup, ça m'amène à l'objet suivant, à savoir, est-ce que votre but, Margot, est lucratif ou non lucratif ? Pour une association loi 1901, le but doit être non lucratif, puisque l'association n'a pas pour activité de créer et partager des bénéfices ou de rechercher un profit. Alors Margot, je ne sais pas, elle de son côté. moi, en tout cas, j'ai créé l'association Sauver Priscilla, dont le but tout à fait pur est d'aider cette humoriste prometteuse à concrétiser ses rêves de gloire. Pour cela, faites un don au 7 69 69. Promis, vous ne l'aurez pas dans le cul. Cette sacro-sainte liberté d'association est constitutionnalisée, waouh, c'est un mot super long, par la décision du Conseil constitutionnel français du 16 juillet 1971 qui lui donne le statut de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Bref, encore un nom pompeux pour un grand principe que les gouvernements s'empresseront de violer. Néanmoins, les seules restrictions possibles à la liberté d'association consistent à garantir la sécurité nationale, l'atteinte à la forme républicaine du gouvernement, l'intégrité territoriale, la sécurité publique, la défense de l'ordre, la prévention du crime, la protection de la santé, de la morale, la protection de la réputation d'autrui. Bon, ben, ce sont des exceptions qui sont grosso modo aussi larges que l'anus de Magloire ou l'ego d'Elon Musk. À moins que ce ne soit l'inverse. Vous imaginez donc les violations, je ne sais même plus parler, les violations potentielles à la liberté d'association qui sont possibles. Pour conclure, mes chers auditeuristes de la perversion, oui je sais c'est gratuit, l'association pour se retrouver entre potes, c'est bien, pour partager des points communs, c'est mieux. Mais gare aux associations qui peuvent se révéler maléfiques, torture et œil de verre, bon a priori celui-là on en est débarrassé, Nabila et un couteau, Priscilla et un micro. Je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup Priscilla. C'était donc la chronique juridique de l'agité du local. Et bien justement, votre émission quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Gilles Monsalier, président de l'association Alcool Assistance, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous Priscilla encore une fois. Et bien sûr, merci à toi Maxime. Alors, on va jeter un coup d'œil sur la suite de la programmation. Qu'est-ce qui nous attend Maxime ?
La soirée commence à 19h avec de la philosophie avec l'émission La Chasseuse de Tug.
La soirée continue ensuite.
Oui, avec l'émission Old Blue à partir de 21h et c'est avec Bruno.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Ce sera le grand format. J'aurai le plaisir de partager ce moment avec Pierre Thévenoux, humoriste qui se produira sur la scène des Angenoises à Bonchamp, justement demain soir. Il est encore temps de prendre vos places. D'ici là, prenez le temps de sourire à un inconnu, à vous-même ou à la vie. Allez, ces gestes simples résonnent plus loin qu'on ne le croit. C'est une idée, une manière, chacun la sienne, de faire le bien.
Oh, c'est déjà la fin. Ben, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.